Nicolas Machiavel, lettre à Francesco Vettori. Magnifique ambassadeur, jamais grâce divine n'arriva trop tard. Je dis cela parce que je craignais d'avoir, non pas perdu, mais égaré vos bonnes grâces. Vous aviez été si longtemps sans m'écrire que je ne pouvais en imaginer les raisons. J'attachais peu d'importance, il est vrai, à toutes celles qui me passaient par la tête. J'avais peur seulement qu'on ne vous eût écrit que j'étais un mauvais ménager de vos lettres, et que cela ne vous eût décidé à rompre toute correspondance. J'étais certain cependant qu'à l'exception de Filippo et de Paolo, je ne les avais montrés à personne. J'ai été tout ranimé par votre dernière du 23 du mois passé. J'ai bien du plaisir à voir avec quelle tranquillité d'esprit vous traitez des affaires. Je vous engage à continuer. Quiconque abandonne ses aises pour les aises d'autrui perd les siennes sans qu'on lui en sache aucun gré. Et puisque la fortune veut se mêler de tout, il faut la laisser faire, se tenir en repos, ne lui causer aucun embarras, et attendre qu'elle permette aux hommes d'agir un peu. Alors, vous pourrez prendre plus de peine, surveiller davantage ce qui se passe. Alors, vous me verrez quitter la campagne et venir vous dire « Me voilà ». En attendant, pour vous rendre une grâce pareille à celle que j'ai reçue de vous, je ne puis que vous dire dans cette lettre le genre de vie que je mène. Et si vous jugez qu'elle vaille la vôtre, je consens avec un véritable plaisir à la poursuivre. J'habite donc ma villa, et depuis les derniers malheurs que j'ai éprouvés, je ne crois pas en tout avoir été 20 jours à Florence. Jusqu'à présent, je me suis amusé à tendre de ma main des pièges aux grives. Me levant avant le jour, je disposais mes gluaux, et j'allais chargé d'un paquet de cages sur le dos, semblable à Geta, lorsqu'il revient du port chargé des livres d'Amphitryon. Je prenais ordinairement 2 grives, mais jamais plus de 7. C'est ainsi que j'ai passé tout le mois de septembre. Cet amusement, tout sot qu'il est, m'a enfin manqué à mon grand regret. Et voici comment j'ai vécu depuis. Je me lève avec le soleil. Je vais dans un de mes bois que je fais couper. J'y demeure 2 heures à examiner l'ouvrage qu'on a fait la veille et à m'entretenir avec les bûcherons qui ont toujours quelques mailles à partir, soit entre eux, soit avec leurs voisins. J'aurais à vous dire sur ce bois 1000 belles choses qui me sont arrivées, soit avec Frossino de Panzano, soit avec d'autres qui en voulaient. Frossino particulièrement avait envoyé chercher une certaine quantité de catastes sans m'en rien dire, et lorsqu'il s'agit de payer, il voulut me retenir 10 livres qu'il prétendait m'avoir gagnés, il y a 4 ans, en jouant à Crica, chez Antonio Guicciardini. Je commençai d'abord par faire le diable. Je voulais m'en prendre au voiturier qui était allé le chercher comme à un voleur. Mais Giovanni Machiavelli s'interposa dans cette affaire et nous remit d'accord. Battista Giucardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene et quelques autres personnes m'en prirent chacun une catasta. Lorsque nous avons eu ces grands vents du Nord, je promis à tous et j'en envoyai une à Tommaso qui en transporta la moitié à Florence, parce qu'il s'y trouvait avec sa femme, sa servante et ses enfants pour la recevoir. On aurait dit le gaboureau, lorsqu'avec ses garçons, il vient le jeudi pour assommer un bœuf. M'étant alors aperçu qu'il n'y avait rien à gagner, j'ai annoncé aux autres qu'il ne me restait plus de bois. Ils ont tous fait la moue, surtout Battista, qui met ce refus au nombre de ses grandes mésaventures d'État. Lorsque je quitte le bois, je me rends auprès d'une fontaine, et de là à mes gluaux, portant avec moi soit le Dante, soit Pétrarque, soit un de ces poètes appelés minores, tels que Tibulle, Ovide et autres. Je lis leurs plaintes passionnées et leurs transports amoureux. Je me rappelle les miens et je jouis un moment de ce doux souvenir. Je vais ensuite à l'hôtellerie qui est située sur le grand chemin. Je cause avec les passants. Je leur demande des nouvelles de leur pays. J'apprends grand nombre de choses et j'observe la diversité qui existe entre les goûts et les imaginations de la plupart des hommes. Sur ces entrefaites arrive l'heure du dîner. Je mange le peu de mets que me fournissent ma pauvre petite villa et mon chétif patrimoine. Le repas fini, je retourne à l'hôtellerie. J'y trouve ordinairement l'hôte, un bouclier, un meunier et deux chauffourniers. Je m'encanaille avec eux tout le reste de la journée, jouant à crica, à tric-trac. Il s'élève mille disputes, aux emportements se joignent les injures, et le plus souvent c'est pour un liard que nous nous échauffons, et que le bruit de nos querelles se fait entendre jusqu'à San Cassiano. C'est ainsi que, plongé dans cette vulgaire existence, je tâche d'empêcher mon cerveau de se moisir. Je donne ainsi carrière à la malignité de la fortune qui me poursuit. Je suis satisfait qu'elle ait pris ce moyen de me fouler aux pieds, et je veux voir si elle n'aura pas honte de me traiter toujours de la sorte. Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Je me dépouille sur la porte de ces habits de paysan couverts de poussière et de boue. Je me revais d'habits de cour et de mon costume et, habillé décemment, je pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes de l'Antiquité. Reçu par eux avec bonté et bienveillance, je me repais de cette nourriture qui seule est faite pour moi et pour laquelle je suis né. Je ne crains pas de m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Ils me répondent avec bonté, et pendant 4 heures, j'échappe à tout ennui. J'oublie tous mes chagrins. Je ne crains plus la pauvreté, et la mort ne saurait m'épouvanter. Je me transporte en eux tout entier, et comme le Dante a dit, il n'y a point de science si l'on ne retient ce qu'on a entendu. J'ai noté tout ce qui dans leur conversation m'a paru de quelque importance. J'en ai composé un opuscule de Principatibus, dans lequel j'aborde autant que je puis toutes les profondeurs de mon sujet, recherchant quelle est l'essence des principautés. De combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient, et pourquoi on les perd. Et si mes rêveries vous ont plu quelquefois, celle-ci ne doit pas vous être désagréable, elle doit surtout convenir à un prince, et spécialement à un prince nouveau. Voilà pourquoi je dédie mon ouvrage à la magnificence de Giuliano. Filippo Casavecchia l'a vu. Il pourra vous rendre compte de la chose en elle-même et des discussions que nous avons eues ensemble. Toutefois, je m'amuse encore à l'augmenter et à le polir. Vous voudriez, magnifique ambassadeur, que j'abandonne ma manière de vivre pour venir partager la vôtre. Je le ferai certainement. Je ne suis retenu en ce moment que par certaines petites affaires personnelles qui seront finies d'ici à 6 semaines. Ce qui me tient aussi en suspens, c'est que les Soderini sont à Rome, et que si je venais, je serais forcé de les visiter et de leur parler. J'aurais tout lieu de craindre qu'à mon retour, au lieu de mettre pied à terre chez moi, on ne me fît descendre chez le Bargello. Car bien que ce gouvernement soit assis sur les fondements les plus solides et jouisse de la plus profonde sécurité, cependant, comme il est récemment établi, tout doit lui être suspect. Et il ne manque pas d'importants qui, pour paraître semblable à Paolo Bertini, se feraient valoir à mes dépens et me laisseraient me tirer d'affaire comme je pourrais. Je vous en prie, délivrez-moi de cette crainte et je viendrai vous rejoindre au temps marqué sans que rien ne m'en empêche. J'ai parlé avec Filippo de mon opuscule pour savoir s'il était bien de le publier ou de ne pas le publier, et dans le premier cas, s'il conviendrait de le porter moi-même ou de vous l'envoyer. En ne le publiant pas, j'ai à craindre non seulement que Giuliano ne le lise pas, mais que cette Hardingelli ne se fasse honneur auprès de lui de mes dernières fatigues. C'est le besoin auquel je suis en butte qui me force à le publier. Car je me consume, et je ne puis rester longtemps encore dans la même position sans que la pauvreté me rende l'objet de tous les mépris. Ensuite, je voudrais bien que ces seigneurs Médicis commencent à m'employer. Dussent-ils d'abord ne me faire que retourner des pierres? Si je parvenais une fois à me concilier leur bienveillance, je ne pourrais me plaindre que de moi. Quant à mon ouvrage, s'ils prenaient la peine de le lire, ils verraient que je n'ai employé ni à dormir ni à jouer les 15 années que j'ai consacrées à l'étude des affaires de l'État. Chacun devrait tenir à se servir d'un homme qui a depuis longtemps acquis de l'expérience. On ne devrait pas non plus douter de ma fidélité, car si jusqu'à ce jour je l'ai scrupuleusement gardée, ce n'est point aujourd'hui que j'apprendrai à la trahir celui qui a été probe et honnête homme pendant 43 ans, et tel est aujourd'hui mon âge. Je ne peux changer de nature, et le meilleur garant que je puisse donner de mon honneur et de ma probité, c'est mon indigence. Je désirerais donc que vous m'écriviez ce que vous pensez sur cette matière, et je me recommande à vous. 6 Félix. Nicolas Machiavel, Florence, le 10 décembre 1513.